Interview.
Okay, då börjar vi.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Floriane Carlier. Bonjour.
Bonjour.
Et Marie-Cécile Redmond. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour à vous deux. Vous êtes ici pour nous annoncer cette exposition qui a commencé depuis le 8 avril et qui s'intitule « Le chemin de papier ». Ça se situe 3 rue du Salin et c'est à l'arrière du café-théâtre Andarta. Et on peut voir par cette vitrine vos créations. Donc axé essentiellement, on peut le remarquer, sur l'ouvrage qui est le livre.
Oui, tout à fait. L'espace Magma, qui est un espace d'expérimentation et aussi un espace d'exposition, aime bien changer d'exposition régulièrement. Et là, à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, on s'est dit que ce serait pas mal de faire quelque chose autour du livre. Donc moi, c'est ma pratique. Moi, je m'occupe de la galerie et en même temps, j'ai une pratique artistique. Et il se trouve que depuis 2 ans, je suis pas mal autour du format papier, puisque je récupère beaucoup de livres, de magazines, que je fais beaucoup de découpage, de collage. Et là, j'ai vraiment un support qui est, on pourra y revenir tout à l'heure, mais qui est vraiment autour du livre. Et donc, j'ai rallié deux autres artistes, deux autres personnes qui ont pour support ou qui créent elles-mêmes des livres ou en tout cas du format livre d'artiste.
Pareil pour vous, Marie-Cécile, vous êtes artiste aussi, relieuse en pliage et aquarelle. Ce parti pris aussi pour cette exposition autour du livre, c'était une évidence pour vous?
En fait, lors d'une réunion de préparation de cet événement, les Journées européennes des artisans d'art, j'ai été invitée par Floriane à exposer dans cette galerie Magma. Donc, moi, ça me convenait tout à fait. Et donc, on a aussi choisi un titre, « Les chemins de papier ». Donc, le papier, moi, je l'aime sous plein de formes différentes, puisque j'ai en fait, dans mon travail, il y a deux aspects. Il y a un aspect plutôt, on va dire, aquarelle, travail de gravure, pastel, etc. Donc, des tableaux, on va dire, en général. Et puis, j'aime le papier principalement sous forme de différentes reliures. Ce qui m'intéresse, ce sont surtout les reliures. Donc, dans l'exposition actuelle, il y a un peu des deux.
Le travail est relativement similaire avec celui de Rosemary Guillermic aussi, qui est relieuse également, et qui propose des travaux, essentiellement des carnets en cuir et papier.
Oui, je peux dire un petit mot là-dessus, oui. puisqu'elle n'est pas là pour en parler. Donc, elle vous en parlerait beaucoup mieux que moi, hein, puisqu'elle est vraiment formée à la reliure professionnelle et traditionnelle. Et donc, elle propose vraiment des carnets vides en cuir et en papier, donc dans des reliures traditionnelles, mais qu'elle s'est réappropriée à sa manière. Et donc là, on est sur on est sur une création purement artisanale, mais où elle met sa patte quand même d'artiste en choisissant, en colorant elle-même ses propres couvertures, par exemple, en choisissant tel ou tel type de reliure, en détournant la reliure traditionnelle à sa manière. Et alors que Marie-Cécile aussi, je te passe la parole pour en dire plus, mais va être plutôt sur un support, elle va créer elle-même ses supports pour ses propres créations, pour donner volume à ses aquarelles et à ses dessins et à ses écritures.
Oui, moi ce que je voulais ajouter, c'est que Rosemary est une relieuse professionnelle avec un travail très personnel, mais de toute beauté, une qualité, moi, que j'ai trouvé vraiment super admirable. Moi, je suis une dilettante. Dilettante, on dit. Je suis une dilettante, mais j'aime, j'aime essayer. J'essaye différents papiers, voilà. Et puis, il y a quelques objets, quelques carnets ou des kits qui ont un peu un esprit récupération. Voilà, mais j'aime toucher un peu à tout. Je ne suis pas relieuse, vraiment.
Effectivement, ces livres sont présentés sous diverses propositions. On peut parler de livres d'art, même.
Je pense, oui. Je pense qu'on est... Alors, on est à la fois dans le livre d'artiste, puisqu'il y a, il y a des choses qui sont présentées qui sont des éditions uniques, qui ont été fabriquées à la main, remplies à la main. C'est comme si on arrivait dans le carnet de notes de l'artiste, mais un peu plus mis en forme pour être lu. Donc, c'est assez précieux. Enfin, moi, je trouve que c'est toujours une chance incroyable d'avoir accès à des œuvres qui ne sont pas destinées à être finalement à être vues sur des murs, dans une exposition, qui reflètent vraiment le chemin de pensée de l'artiste, page après page, et qui n'a pas choisi, il ne s'est pas, en tout cas l'artiste ne s'est pas dit bon bah ces œuvres-là, je les extrais du carnet pour en faire des œuvres définitives qui seront destinées à être vendues. Elles sont un peu plus personnelles. En tout cas, c'est comme ça que moi je les perçois. Elles sont un peu plus personnelles. Elles restent dans mes carnets de réflexion. J'ai besoin de les garder avec moi pour les revoir de temps en temps, savoir d'où vient ma réflexion, où est-ce que j'en suis maintenant, est-ce que ça m'inspire toujours. Et donc ces carnets ne sont pas forcément destinés, pas tous destinés à la vente. Certains oui, d'autres non. Et ceux qui ne sont pas destinés à la vente, je trouve, sont d'autant plus précieux à venir découvrir puisqu'on les propose à la lecture. Voilà. Livre d'artiste aussi par le détournement. C'est plutôt mon travail, donc je vais prendre des vieux bouquins. Et puis je vais les détourner, je vais leur faire subir le scalpel, je vais un petit peu les éventrer, aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et finalement, de la même manière qu'on va prendre un bout de bois et on va enlever pour donner forme, pour essayer de mettre en valeur la particularité du bois avec ses nœuds, son tramage, et bien moi je vais aller chercher ce que je veux enlever du livre et qu'est-ce qui va rester. Voilà, donc je vais les évider et en même temps, je vais le transformer en dentelle narrative. Et en un coup d'œil, ça va créer... C'est-à-dire que l'image qu'on pourrait se représenter en feuilletant le livre très rapidement, comme ça, sur une brocante, eh bien, d'un coup, on va tout voir d'un coup. Un peu comme dans un rêve, toutes les images vont se mélanger, les mots vont se mélanger pour créer des nouvelles compositions. Et qui cette fois-ci ne seront plus sur un seul plan, mais sur plusieurs plans, puisque comme j'ai creusé le livre, eh bien, ça fait comme un petit théâtre en profondeur, et ça nous projette dans un univers un petit peu fantastique.
Marie-Cécile Redmond, vous-même, donc, devant une feuille de papier ou du carton, comment vous vient à l'esprit la création à venir ?
En fait, là, je vais revenir sur ces deux aspects. Aspect un peu exposition de tableau, donc peu importe le médium, je dirais aquarelle, pastel, et la réalisation des petits carnets. Par exemple, sur un petit carnet, je vais pouvoir faire une aquarelle en Leporello, avec différentes façons d'entourer les couvertures, des couvertures ou pas de Leporello. Donc, en fait, les deux aspects, petit carnet et tableau à mettre au mur, sont quand même très complémentaires pour moi. Les petits carnets, par exemple, sont des... Je ne fais pas de photocopie, c'est que des pièces uniques. Les aquarelles, elles seront, les petits carnets présentent des pièces uniques, quoi. Donc, c'est simple, c'est modeste, mais il y a aussi cette occupation de trouver toujours de nouvelles façons de relier. Donc, moi, je les présente avec différentes reliures australiennes, etc., en petit format, mais le tout c'est de comprendre le système de façon ensuite à l'adapter à différentes tailles, différents papiers, etc. Mmh. C'est ça qui m'intéresse. Et mes deux activités, on peut dire, ouais, se complètent pour moi, quoi.
Moi, ce qui m'intéresse dans le travail de Marie-Cécile qu'elle est en train de décrire là, c'est que bon, elle produit des aquarelles. Certaines sont encadrées traditionnellement, accrochées au mur. Voilà, on peut venir en acquérir une si on souhaite. Mais elles ont un certain format. Tout le monde n'est pas forcément n'a pas forcément le budget aussi pour, même si elles sont, elles restent à un prix accessible, on va dire. Mais l'autre versant qu'elle propose, c'est à peu près les mêmes aquarelles, en tout cas avec la même qualité de réalisation, la même qualité artistique, la même évocation poétique, mais de poche. Pour moi, c'est des œuvres de poche, des aquarelles de poche. Donc le Leporello dont elle parle, c'est un petit accordéon en papier. Et donc on peut venir acquérir pour une somme très très modique, une aquarelle de poche, hop, qu'on peut replier comme ça, glisser dans son enveloppe en papier un peu plus résistante, et c'est pas plus grand qu'un portefeuille, on peut l'emmener. Donc on peut, moi je trouve ça intéressant, en tout cas dans moi ce qui m'intéresse dans le projet de l'association Magma, c'est aussi la démocratisation de l'art. Donc c'est sûr qu'il y a, il y aura toujours des œuvres où on a passé tellement de temps en tant qu'artiste, où les matériaux ont eu aussi un certain coût, donc on ne pourra pas les proposer à la vente à des prix réduits, parce que sinon, nous non plus, on ne s'en sortirait pas. Mais là, en l'occurrence, elle propose des œuvres qui sont accessibles à tous.
On peut remarquer justement quelques aquarelles hein, en accordéon, oui. Certainement des représentations montagneuses, oui. Notamment. Oui. Et il y a cette œuvre aquarelle, est-ce que c'est elle qui régit aussi la présentation par la reliure de ce qu'elle va, dans lequel elle va être insérée. Est-ce qu'il y a l'objet lui-même est en quelque sorte l'écho de l'œuvre.
Je dirais qu'il y a une relation. Une relation, mais c'est aussi ce que j'aime, en fait. Ce que je suis, quoi. En fait, j'aime... je suis pas du tout coloriste, par exemple. Donc, je veux dire... La majorité des travaux que je fais sont dans les couleurs bleu ou noir, peut-être une touche d'ocre, mais de la même façon, il y a une correspondance effectivement entre les sujets que je choisis, qui seront pour moi principalement, on peut dire d'une façon exhaustive, les montagnes, parce que j'aime la montagne. Donc c'est... En fait, on ne peut travailler... représenter que ce que l'on aime nous-mêmes. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui va... Je cherche pas, en fait, dans les aquarelles ou autres de montagne, je ne cherche jamais à faire comme la montagne réelle. C'est toujours de l'imaginaire. Moi, j'aime que les personnes qui regardent trouvent ce qu'elles sont elles-mêmes. En fait, c'est ça qui m'intéresse. Je suis pas dans le... dans la réalité.
Je pense à ces artistes, notamment Okuzai, qui pouvait rester pendant des années sans travailler, et vient le moment de la création, où là, il produit à foison des estampes, des aquarelles, je ne sais pas si on peut le dire. Et est-ce que vous êtes aussi dans ces périodes où il y a plutôt la réflexion, et ensuite un certain relâchement, un laisser-aller pour créer?
Je dirais complètement, complètement. Il y a des passages où un médium va m'intéresser plus qu'un autre, et puis je vais travailler pendant quelques temps, quelques semaines, quelques mois, et puis je passe à un autre. Ça dépend de comment je vois la nature aussi. Entre un champ de neige l'hiver et une falaise en plein été, c'est aussi le paysage qui m'induit le médium que je vais utiliser.
Quelle est la relation qui s'est établie autour de cette exposition entre vous trois par rapport à cette notion du livre?
Ce qui m'intéressait, c'était de travailler avec des relieuses. Je pense que je n'aurais pas eu l'idée de cette expo si Marie-Cécile ne s'était pas présentée comme relieuse. Ça m'a fait tilt en me disant « mais moi, je suis très intéressée par l'objet livre ». Et là, j'ai en face de moi quelqu'un qui en produit, en fait, à la main, artisanalement. Et moi, je sais ce que c'est, le travail manuel. Je sais à quel point c'est prenant, ça prend du temps, c'est long et ça peut être mésestimé. Donc, dans un premier temps, j'ai proposé à une première relieuse. Et puis après, je me suis rappelée une amie à moi qui était relieuse, et donc c'est Rosemary, et qui a dû mettre entre parenthèses sa pratique depuis 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'elle est devenue maman. Et parce que dans la foulée qu'elle devenait maman, elle a dû aussi reprendre un travail. Et donc, entre ces deux activités, elle n'a plus le temps, ou en tout cas, elle a choisi de mettre de côté sa pratique. Et moi, je suis une femme. J'ai invité 2 femmes à travailler avec moi. Et c'est une réalité que je connais. J'ai été maman aussi, quand j'étais étudiante, d'ailleurs, étudiante en art. Et c'est vraiment, je trouve, une problématique qui est très présente, bah, déjà dans de nombreux métiers, dans de nombreuses couches sociales, mais en particulier dans l'art. Il y a déjà très peu d'élus, à la base. C'est une problématique qui reste très forte. Quand on regarde le nombre d'étudiantes qui sont en école d'art, elles sont majoritaires. Et ensuite, quand on regarde le nombre d'artistes femmes qui sont représentées par des galeries, on est à environ 1 pour 10, c'est-à-dire une femme pour 9 hommes. C'est vraiment très peu. On ne va même pas parler des différences de... on ne peut pas parler de salaire, mais en tout cas des différences de revenus qu'il peut y avoir entre les valeurs, la valeur qu'on accorde à l'œuvre d'une femme et la valeur qu'on accorde à l'œuvre d'un homme. Voilà. Donc ça, c'est, pour moi, c'est important de favoriser, de proposer, de tendre la main à des artistes femmes qui sont dans des parcours où il y a des épreuves, où on trébuche, où notre carrière est ralentie par notre parcours de femme, et notamment devenant maman. Et donc, quand j'ai vraiment pensé à Rosemary dans ces termes, en me disant cette personne est diplômée d'une grande école, École Étienne à Paris. Elle a pratiqué longtemps. Elle est dans sa trentaine, à un moment que j'estime charnière, c'est-à-dire que si à un moment on décroche de notre pratique, eh ben, ça va être très difficile de reprendre après, dans la quarantaine, dans la cinquantaine. On va avoir tendance à être moins sollicité, moins exposé, parce qu'en plus du sexisme, il peut y avoir de l'agisme. Et donc pour moi, c'était très important de pouvoir proposer à Rosemary, entre autres, mais pas qu'à elle, de venir, si elle le souhaitait, montrer le reste de son stock, puisque ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'elle n'avait pas vendu à l'époque, mais elle n'a pas pu en reproduire depuis. Et si elle a dit oui, eh bien, déjà, si ça lui fait plaisir, c'est super. Si ça lui fait des bonnes remontées, parce que des gens ont apprécié son travail et que ça la valorise, c'est super. Et puis voilà, ce sera à elle de choisir si ça lui donne envie de remettre le pied à l'étrier ou pas. En tout cas, ça lui redonne une visibilité.
Une question pour vous deux. Quelle a été cette rencontre avec le livre qui vous a amené à le travailler ou à le créer ?
Individuellement, tu veux oui. dire, chacune ?
Ben moi, je dirais que je suis une grande lectrice. Et dans ma famille, on partait en vacances avec des valises de livres, enfants, très jeunes. Et mes parents étaient très intéressés. Ils ont connu Robert Morel, qui est un éditeur assez particulier des Alpes de Haute-Provence, mais qui a beaucoup, beaucoup œuvré pour l'édition. Et donc, je veux dire, nous, en tant qu'enfants, on a toujours été intéressés par la lecture, bien sûr, mais aussi l'enveloppe des livres. Donc, ça s'est fait naturellement. J'ai été intéressée, quand j'ai pu avoir du temps, je suis à la retraite, par ces systèmes de relure. Donc, j'ai cherché dans des livres, sur Internet, diverses relures qui utilisent, du coup, divers papiers. Voilà. Après, quand je reviens dessus, la taille, après, une fois qu'on a compris le système, n'a aucune importance. Le papier peut avoir de l'importance. Donc oui, ça s'est fait petit à petit, quoi. C'est quand même, je pense, l'amour des mots.
Ce papier, c'est avec sa multitude de gammes, hein, de grammage, d'utilisation aussi, hein, de destination. Est-ce que, à vos yeux, il y a toujours ce choix en quantité, ou alors petit à petit, c'est aussi un mode ou un support qui tend à disparaître?
Ah, mais pour moi, il fait partie, en fait, au niveau des carnets, il fait partie, en fait, du carnet lui-même. Donc, après, il y a beaucoup de choix, effectivement. Par exemple, j'ai une reliure australienne qui est peu connue et qui utilise beaucoup de papier en couverture, parce que ce sont trois cahiers avec couverture qui sont reliés entre elles. Mais pour moi, j'ai décidé d'utiliser des papiers népalais, mais artisanaux, qui sont assez difficiles à trouver. On peut les trouver dans quelques boutiques dans les grandes villes ou sur Internet. Mais le papier lui-même, artisanal, est absolument magnifique par rapport à un papier manufacturé. Donc, comme pour beaucoup de choses, on fait des choix.
Et donc, il y a un papier qui vous plaît par-dessus tout?
Ce papier népalais artisanal.
Il a une spécificité, de légèreté peut-être?
Pas de légèreté, il a une sorte de transparence. Quand on appose ce papier contre une source lumineuse, il est différent et il est... Oui, au toucher, en fait, c'est souvent ça. Le papier, il faut le toucher, quoi. Donc oui, moi, je prends du temps pour tester, voilà. Pour tester les papiers, et puis après, c'est à chacun de trouver ce qui lui convient.
Rosemary aurait pu nous répondre aussi hein, sur le choix d'un papier pour un ouvrage, un imprimé. On n'utilise pas n'importe quel papier, il y a celui qui s'accroche bien aux doigts pour pouvoir tourner les pages également. Souvent, on retrouve des éditions de livres qui sont moindre qualité, où le doigt glisse sans pouvoir tourner la page. Donc, il y a aussi un choix de diverses sortes à opérer pour constituer un livre. Donc, je reviens vers vous, Floriane, par rapport à cette création de sculptures de livres. J'en aperçois de temps en temps sur cette vitrine donc de Magma. Et quand je passe devant certains, j'ai l'impression de regarder l'intérieur d'un crâne.
C'est vrai que c'est un peu une dissection, hein, cette opération que je produis sur les livres. Un crâne ou un oignon, moi j'ai l'impression d'opérer couche après couche. L'aspect narratif reste très important pour moi quand j'aborde un livre. En tout cas, quand je l'aborde. C'est-à-dire quand je l'ai devant moi et j'ai mon scalpel dans la main, je me dis alors, par où est-ce que je commence? Comme un plat quand on est trop servi. Il y a beaucoup de pages dans un livre. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à lire. Donc moi, je ne vais pas forcément le lire en entier, mais c'est sûr que le thème et la manière dont il est représenté va venir m'influencer. L'épaisseur des pages, la taille, la qualité ou pas des représentations à l'intérieur. Et également, où est-ce qu'elles sont situées. Donc, c'est le côté un peu dada. C'est-à-dire que j'accepte que ce que je vais faire ne va pas forcément avoir de sens, puisque les images qui vont venir survivre, que je vais décider de laisser, vont venir s'additionner les unes aux autres pour créer une composition que je ne maîtrise pas complètement. Je ne vais pas choisir que tel morceau va apparaître à tel endroit. Non, c'est l'éditeur qui l'a placé là. Moi, je vais juste choisir qui va rester là, qui va rester visible, ou au contraire, que je vais le cacher et en laisser dépasser qu'un petit morceau. Ça m'aide à lâcher prise. En tout cas, dans ma pratique d'artiste, c'est une pratique qui m'aide à lâcher prise, parce que souvent, quand on se retrouve avec un début de composition vide, c'est-à-dire une grande feuille de papier ou un grand vide, une grande table vide devant nous, eh bien, tout est possible. C'est difficile de se mettre soi-même des règles, quand on est artiste, des limites. Ce qu'on pourrait faire dans le cadre d'un exercice imposé par un autre artiste, ou dans le cadre d'un stage, ou dans le cadre d'un apprentissage, eh bien, ça va venir nous aider à nous canaliser. Quand on se retrouve tout seul et que personne n'est là, aucune règle extérieure n'est là pour nous poser un cadre, eh bien, c'est toujours la grande question pour les artistes de dire par quoi est-ce que je commence et à quel moment est-ce que je vais m'arrêter? Est-ce que j'en ai mis assez, trop, etc. Est-ce que j'en enlève, j'en remets? Là, un coup de cutter, c'est un coup de cutter. Je ne peux pas choisir de revenir en arrière. C'est fait, tant pis. Par contre, je peux choisir quand est-ce que je m'arrête. Voilà. Donc, moi, je suis plus là, finalement. J'ai l'impression d'être un peu une médiatrice, plus qu'une artiste quand je fais ça. Je suis là, finalement, pour venir mettre en valeur ce livre qui peut-être était destiné à la poubelle, en tout cas qui souvent je trouve au rebut, hein, ou dans les petites bibliothèques publiques à donner, là, hein, qui sont très nombreuses d'Andy, heureusement. Mais en tout cas, je viens remettre un livre que peut-être on aurait pu regarder, parce que le savoir qui est dedans, il est obsolète, parce que la couverture ne présente plus très bien, parce que ce n'est pas un roman. Moi, je ne travaille pas trop sur des romans, mais plutôt sur des livres où il y a des savoir-faire dedans. Mais on a avancé dans les savoirs, donc l'édition n'est plus au goût du jour. Et je vais essayer de venir la remettre en valeur. Donc effectivement, les gens, quand ils passent dans la vitrine, comme toi, ils ont un petit temps d'arrêt en disant « Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un livre qui a été découpé. Oh là là ! Mais on découvre plein de choses. » Et peut-être ce livre, ils ne l'auraient jamais regardé s'ils avaient vu que la tranche abîmée dans une petite librairie ou à donner ou à jeter. Voilà, ça renouvelle le regard.
Vous voulez rajouter ?
Je voulais rajouter par rapport au papier. Et pour moi, ce qui est très, très important, en fait, c'est d'expérimenter les papiers. Les médiums aussi, mais principalement les papiers. J'ai été, lors d'une exposition, une fois un peu interloquée par une personne, apparemment enseignante d'art plastique, qui me demandait ce que j'avais utilisé comme papier pour papier aquarelle. Donc je lui ai répondu et il m'a dit non, l'aquarelle ne se pratique que sur un papier arche 300 grammes. Là, je n'ai pu répondre qui l'a dit. J'ai fait une série d'aquarelles sur des papiers de gravure japonais, un papier très fin. Effectivement, ça ne donne pas le même rendu que sur un papier arche 300 grammes. C'est autre chose. Donc je m'insurge beaucoup quand quelqu'un dit « il faut utiliser ceci ou cela ». Non, 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 il faut essayer, il faut expérimenter. Tout dépend en fait de ce qu'on veut faire. Moi je dis, bon, si on veut faire la petite maison dans la prairie, je dis « pourquoi pas, je ne juge pas ». Je dis que c'est intéressant, enrichissant de faire des essais sur du papier craft, etc. Donc, je voulais voilà, insister sur cette façon que j'ai de voir les choses, tout simplement.
Marie-Cécile, il y a diverses présentations hein, de vos travaux. Il y a un grand choix. Est-ce que vous vous êtes enseignée, vous parliez de cette reliure dite australienne, il existe certainement une multitude. Est-ce que vous portez votre connaissance à toutes ces possibilités et les appliquer même ?
Ben, j'essaie. Je peux trouver une reliure peu connue comme l'australienne. Là, j'ai trouvé sur Internet ou sur après, il existe des livres voilà, qui présentent beaucoup de reliures différentes. Faut essayer, c'est toujours pareil. Hein. Faut essayer, faut aimer découvrir et puis proposer aussi de nouvelles choses. Quoi. Je vais pas pendant des années présenter la même chose. Donc il y a quand même un intérêt de trouver des nouveautés, voilà.
Floriane, par rapport à vos créations, est-ce que vous partez d'un livre, comme vous le disiez, ou alors parfois vous peut-être rassemblez diverses parties d'ouvrages différents pour les relier entre elles et proposer un autre aspect de travail.
Ça entre dans ma logique de création. Parce que avant de découper ces fameux livres, je faisais plutôt du collage, de l'assemblage. Donc finalement, là, je suis dans le procédé inverse. C'est-à-dire, au lieu d'aller chercher dans les livres ce qui m'intéresse, j'enlève ce que je trouve non nécessaire, non essentiel. Voilà. Donc on pourrait imaginer que la suite, ça pourrait être une suite complètement logique, que je crée des œuvres qui sont à la croisée de ces deux techniques de création, qui sont l'assemblage et au contraire, je ne connais pas le mot, mais en tout cas...
La soustraction.
La soustraction, voilà, l'assemblage ou la soustraction. Là, on pourrait être entre les deux, donc effectivement, de prendre des morceaux de livres. Et donc, j'irai de plus en plus dans la sculpture, si je vais par là. Donc moi, j'ai un passé où j'ai pratiqué la sculpture, donc ce n'est pas étonnant que je sois très intéressée par les objets, le volume, leur présence, les matières. Pour l'instant, j'en suis encore... En fait, c'est long d'explorer une technique, déjà. Et je me suis mis un petit peu comme ligne de conduite de continuer déjà la soustraction pour voir jusqu'où je peux aller. Tant que je ne m'ennuie pas et que ça m'apporte des choses, je la pratiquerai. Et effectivement, j'ai déjà pu voir ça, voir d'autres artistes qui pratiquaient cette technique d'assembler différents livres.
Il y a l'ouvrage, le livre que vous récupérez ou que vous créez avec des formats plutôt accessibles à la personne, hein, qu'elle puisse être tenue en main. Mais est-ce que parfois, pour la création, peut-on envisager aussi des œuvres beaucoup plus grandes et de là, justement, à induire une réelle création, que ce soit par rapport aux matériaux, à la technique, qui puisse être d'une pièce qui tienne, tout simplement.
En ce qui me concerne, totalement. Alors, pas forcément sur, justement, du coup, la sculpture sur livre, parce que on dépend de la taille du livre initial. Mais dès que je peux et dès que j'ai l'espace pour le faire, c'est aussi une question d'avoir la place pour pratiquer ça. Parce que le papier, c'est quand même un matériau très fragile. Donc, on ne peut pas... Alors, à moins qu'on ait envie de l'abîmer et faire, comme Anselm Kiefer, des livres géants où il gratte, il salit. C'est un de mes artistes favoris, j'adore ce qu'il fait. Il est à l'opposé de ce que je fais, justement, c'est pour ça que je l'admire. C'est que lui, il n'a pas peur d'abîmer. Mais bon, il est sur un autre discours par rapport à ce qui l'inspire. Voilà, lui, il est beaucoup autour de la mémoire. Mais en tout cas, oui, prendre l'espace... prendre des images qu'on assemble les unes avec les autres pour remplir tout un mur, faire des fresques, c'est quelque chose que je pratique aussi.
Marie-Cécile, pareil, à votre connaissance, quel est le livre qui est la plus grande taille que vous ayez vu ?
En fait, la taille ne m'intéresse pas particulièrement. Et au niveau des tableaux, suivant ça dépend un peu, les techniques en fait jouent sur les tailles. Mais je ne suis pas fascinée par le gigantisme. Je trouve qu'actuellement, on a l'impression qu'une valeur en peinture est déterminée par la grandeur, ce qui ne me convient pas forcément à moi. Je trouve qu'un Vermeer, en général, n'est pas bien grand, mais beau. Je trouve qu'il y a actuellement un peu cette course au gigantisme, à la grandeur. Ça ne m'intéresse pas forcément. J'aimerais de temps en temps quand même agrandir mes tableaux qui sont apposés sur un mur, mais actuellement je n'ai plus d'atelier, donc je patiente.
C'était juste par rapport à une démarche artistique, hein. Vous parliez d'Anselm Kiefer. Et puis, donc, il y aura ce vernissage. Alors, l'émission passant ce soir à 19h10, ça sera un petit peu trop tard pour le vernissage qui est à 18h.
Ce sera en plein vernissage.
Voilà. Donc, les auditeurs qui nous écoutent, si vous avez un petit temps encore à venir à cette galerie Magma, 3 rue du Salin, et c'était jusqu'à quelle heure ?
Jusqu'à 20h environ, mais après, l'exposition, elle reste là jusqu'à dimanche.
Voilà, j'aurais dû le dire au début de l'émission. Auditeurs, n'écoutez plus l'émission, allez au vernissage. Et donc, pour vous retrouver, il y a aussi la page Facebook hein, de Magma Gallery.
Oui.
Pour s'informer de ce que vous organisez et présentez. Dernièrement, c'était l'exposition de Tine, hein, avec ses tapis inspirés de ses peintures.
Oui.
Et pour une suite, qu'est-ce qu'il y aura prévu Floriane, pour la galerie Magma
Pour le moment, le lieu va plutôt servir de labo. Voilà, moi, j'aime bien qu'il y ait des moments de monstration et d'exposition, mais je trouve ça plus important aussi d'avoir un lieu disponible pour la création. Donc, je pense que le printemps, là, va être plutôt pour la création. Et de temps en temps, peut-être qu'il y aura une porte ouverte. En début juillet, on devrait accueillir une sortie de résidence. Voilà, avec une dizaine d'artistes et une autre association. On est en train de monter un projet pour faire une résidence d'une dizaine de jours. Sur des plutôt créations graphiques. Voilà.
Marie-Cécile, vous-même, est-ce que vous transmettez ce savoir-faire par des ateliers ?
En fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup partager. Donc, je dirais ponctuellement, je peux proposer des ateliers parce que, ouais, je trouve que c'est enrichissant, en fait. Mais je suis pas. C'est par rapport aux expositions. Je trouve que c'est toujours intéressant pour un créateur d'avoir une exposition en vue qui peut être dans une durée longue. C'est un peu comme la carotte pour l'âne, quoi. Pour moi, une exposition, ce qui sera essentiel, ça sera de trouver un thème et de travailler autour de ce thème. Mais malheureusement, je ne suis pas du tout commerciale. C'est un autre métier.
Comme les artistes, hein, en
c'est
général.
C'est ça. C'est difficile d'aller se vendre. J'avoue que je n'ai pas de site internet non plus. Mais occasionnellement, proposer un petit atelier par rapport surtout les deux, mais par rapport à le croquis de paysage à l'extérieur ou des techniques de petit carnet, ça, je le fais facilement et avec plaisir.
Au-delà de la galerie Magma, Marie-Cécile, vous avez des coordonnées ou un moyen de vous joindre ?
Bonne question.
Ça sera à connaître en se rendant à cette galerie pour connaître vos coordonnées.
Après, j'ai exposé quand même localement au monastère de Sainte-Croix, au 10, à Barnave. Donc, ces personnes-là ont mes coordonnées.
Dernière question, Marie-Cécile et Floriane. Est-ce que ce moment à trois exposants vous donne une inspiration nouvelle ou de nouvelles idées à traiter pour vos prochaines créations ?
Oui, ça donne toujours des idées. Jamais tout de suite, en ce qui me concerne. Je pense que y a un temps de digestion. Là, je suis encore dans l'observation et le plaisir de voir la belle exposition qu'on a présentée, enfin qu'on présente. Et je pense que dans les semaines qui viennent, j'aurai des réminiscences qui viendront alimenter ma pratique.
Et vous, Marie-Cécile ?
Moi, je suis plus dans l'admiration. C'est toujours enrichissant. Une autre technique, mais des fois, c'est seulement intéressant. Tandis que là, pour moi, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Donc, effectivement, il faut venir voir le travail de mes, je sais pas, coéquipières.
Je rappelle aux auditeurs, l'exposition a lieu du 8 au 12 avril 2026. L'entrée est libre. Les horaires du mardi au vendredi sont de 10 à 13 heures et de 15 à 19 heures. Samedi, dimanche, de 10 à 18 heures, vous serez vous-même présente dans cette galerie pour accueillir les visiteurs.
Toujours une de nos deux est présente, voilà. Voire les deux.
Marie-Cécile Redmond et Floriane Carlier, je vous remercie toutes deux d'être venues sur Air du Bois pour nous parler de cette exposition Chemin de papier.
Merci
et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.